Les CM2 à la une,
ça compte pas pour des prunes.
Les CM2 à la une,
ça compte pas pour des prunes.
L'émission que vous allez écouter a été réalisée dans le cadre d'un projet radio inter-école porté par la communauté de communes du pays de Savès, en partenariat avec l'association Les Chemins Buissonniers et Médias Communs. Pour ce premier épisode, nous vous proposons d'écouter le témoignage de Annie Beck, une femme juive qui a été cachée pendant la guerre et qui nous raconte son périple. Elle est intervenue à l'initiative de Sandrine Dubos, l'institutrice des élèves de CM2, le lundi 22 mai 2017 à l'école de Rium. On l'écoute.
Bonjour. Voilà, alors bonjour à tous.
Bonjour.
Donc je vais vous parler de ce que j'appelle mon itinéraire. J'avais à peu près votre âge. J'étais un peu plus âgée parce que j'avais 15 ans, 14-15 ans. Hein. Mais vous voyez, j'étais comme vous. Je vais vous dire la différence que beaucoup ne connaissent pas. Vous, vous êtes des enfants, disons, soit catholiques, soit protestants. Et moi, je suis de religion juive. Et vous voyez que mon visage est comme le vôtre. J'ai deux yeux, j'ai un nez, j'ai une bouche. Alors donc, vous comprendrez ce que j'ai souffert, pourquoi on a voulu absolument tuer des enfants juifs. Parce qu'ils n'allaient pas à l'église ou pourquoi? On s'est toujours posé la question et je vous avoue franchement que je n'ai jamais su donner la réponse. Alors donc, pour commencer, il faut que je vous parle quand même. Je suis de Nancy. Nancy, c'est en haut de la France, à l'est. Et pendant la guerre a été déclarée donc en 1939, pendant près de 6 mois, il n'y a jamais rien eu. Il n'y a rien eu. Et puis, tout d'un coup, il y a eu un bombardement à Nancy.
Et les autorités nous ont dit de quitter Nancy, parce que c'était avec la frontière allemande, donc de partir, comme beaucoup de réfugiés. Nous sommes partis. Et alors, nous sommes partis à Bordeaux. Et alors, je vais vous expliquer pourquoi Bordeaux. Parce que le gouvernement de la France était parti, donc tout le gouvernement français était parti s'installer à Bordeaux. Donc mon père avait dit, bon, si le gouvernement va à Bordeaux, on va continuer à se battre, nous allons aller à Bordeaux. On est parti à Bordeaux et malheureusement, il y a eu l'armistice, et les Allemands ont envahi la France et ils ont envahi Bordeaux également.
Alors, vous parlez de démarcation ? Elle suit la politique juste en Espagne et effectivement Bordeaux faisait du coup partie de la zone.
Voilà. Donc, quand les Allemands arrivent à Bordeaux, là, c'est commence à être mauvais pour des gens comme moi qui sommes ce qu'on appelle juifs. Et on nous demande d'aller nous faire recenser. Comment je peux leur expliquer, recenser, aller, voilà, nous devions aller nous faire marquer comme quoi nous n'étions pas catholiques. Bon, vous savez, c'est pas bon de séparer les gens. Vous êtes libre d'aller où vous voulez. Il y en a peut-être certains parmi vous qui sont protestants, qui vont au temple. D'autres qui vont à l'église. Bon, moi j'allais à la synagogue. Pourquoi est-ce qu'on nous a séparés des autres? Donc, nous sommes allés nous recenser, dire que nous n'étions pas... que nous n'étions pas catholiques, que nous étions juifs. Et un jour donc, en juin 41, c'était dans la nuit, on frappe, vous savez, heureusement pour vous, vous n'avez pas connu l'armée allemande d'occupation. C'était une armée terrible. Alors à coups de crosse, ils ont défoncé la porte. Ils ont laissé ma mère parce qu'elle était malade ce jour-là. Ils l'ont laissée avec avec deux de mes petites sœurs. Et ils ont arrêté mon père et moi parce que moi, je venais d'avoir 15 ans. Vous savez, je suis très émue de me remémorer tout ça, vous comprenez? Un peu. C'est quand même beaucoup d'émotions. On nous amène à la gare, on nous fait monter dans des wagons. On était tous serrés comme des... Vous ne pouvez pas vous imaginer. Et on nous amène à Tours.
Alors là, voilà, si vous voulez, mon cauchemar commence à partir de là, à partir de juin 41, si vous voulez. Alors là, j'arrive dans ce qu'on appelle un camp de triage. C'était un camp de concentration, mais un camp de triage qui se trouvait près de Tours, où il y avait à peu près, je ne sais pas, on devait être 300 ou 500 personnes à peu près. Alors, des femmes, des enfants, des vieillards, il y avait de tout, là. Mais c'était des gens qui étaient juifs. Voilà. Alors, je vous dis, la seule différence avec vous et moi, c'est ça. Et j'ai passé là plus d'un an. Et on était gardés, oui, je voudrais insister là-dessus. C'est que j'ai été gardée, nous avons été gardés par la gendarmerie française. C'était pas très à l'honneur des gendarmes, mais enfin, c'était la gendarmerie française qui nous a gardés. À 6h30 le matin, on était réveillés, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse soleil. On se mettait en rang, dehors, et un gendarme faisait l'appel. Voilà, et on répondait présent. Ça s'est passé comme ça, comme on ne savait pas trop souvent que faire les hommes. On les faisait travailler, je ne sais pas, je vois toujours mon père avec une pelle faire des trous dans une allée, quelque chose comme ça. Bon, et puis un jour, en 1942, donc presque un an après, des camions viennent se garer le long des... Parce que vous savez, un camp, c'est un endroit, disons, comme ici, mais entouré de fils de fer barbelés. Vous ne pouviez pas vous échapper. Et puis, c'était gardé. Et puis, je vais vous dire, je crois qu'on ne savait pas très bien que les camps d'extermination existaient. Vous savez, c'est quand vous avez entendu parler d'Auschwitz, où tous les gens qui rentraient à Auschwitz étaient tués presque, tout le monde. Donc, et un jour, des camions allemands arrivent, se mettent devant les barbelés, et je peux vous dire, d'ailleurs je me le suis marqué là, regardez, je vous lis ce que je me suis marqué, c'est vieux pourtant cette feuille. J'ai encore dans les oreilles les cris de cette soldatesse qui hurlait pour faire monter les gens dans des camions. Les pleurs des enfants, les enfants qui hurlaient de peur. Les pleurs des enfants effrayés. Et ces enfants, j'ai rajouté, qui allaient tous mourir à Auschwitz parce qu'ils étaient nés dans des foyers juifs. Alors, quant à moi, pourquoi je ne suis pas montée dans ce camion et pourquoi vous me voyez là devant vous? Au moment de monter dans le camion, pendant que... Il y avait une sentinelle allemande qui allait tout le long, vous savez, des camions. Bon, elle a eu le dos tourné. Et mon père a vu que dans les barbelés, il y avait un trou dans un côté des barbelés. Et pendant que la sentinelle, elle allait de ce côté-là, mon père m'a poussé comme ça en me disant « Passe à travers et sauve-toi ». Donc, je suis passée à travers ces barbelés en rampant un peu. Et j'ai couru, j'ai été me cacher dans le bois. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ma mère et mes deux petites sœurs, on ne les a pas laissées comme ça. Hein. Ils sont venus les arrêter quelques temps après. Et au lieu de les mettre dans le camp, on les a mis ce qu'on appelle en résidence surveillée. C'est-à-dire en bas du camp où j'étais, à Mons. C'est un village. Et ma mère et mes deux sœurs se sont installées là. Seulement quand les Allemands sont venus ramasser au camp, ils ont ramassé tous les gens qui étaient dans le village. Et mes deux petites sœurs ont pu s'échapper. D'ailleurs, ils ont demandé à être cachés chez une voisine qui a refusé de les cacher. Et ma toute petite sœur, dont je vous montrerai la photo tout à l'heure, a lâché la main de ma sœur en disant « Moi, je retourne avec maman. » C'est pour ça qu'elle est morte à Auschwitz avec sa mère. Et le remords, c'est presque un remords, parce que ma sœur, c'est pas de sa faute. La petite a lâché sa main. Et ma sœur avait quoi? Elle avait 11-12 ans à l'époque. Et la petite avait 8 ans.
mais elle s'en est jamais remise. Encore souvent, elle me dit, je fais des cauchemars. De ne pas avoir su retenir la petite. Bon, alors donc, je me sauve, je vais dans un bois. Et je ne sais pas quoi faire, hein, dans le bois. Je suis toute seule. Là, tout d'un coup, j'entends des pas. Et je vois arriver un monsieur avec un petit garçon. Alors, ce monsieur, il habitait dans le village, en bas. Ils ont ramassé sa femme et ses filles, les Allemands. Mais le monsieur, on l'a prévenu, on lui a dit, n'allez pas dans le village, sauvez-vous. Et il est venu se cacher dans la forêt. Alors donc, il m'a trouvé, mais ce monsieur faisait partie de la résistance. Parce que vous savez qu'il y avait des résistants qui combattaient contre l'armée allemande. Ce monsieur faisait partie de la résistance. Et il m'a dit, voilà, je te laisse mon neveu. Je me souviens encore de son nom, Eddy. Je te laisse, Eddy. Vous ne bougez pas de cet endroit. Je reviendrai vous chercher. Effectivement, il était revenu avec un camion. Et c'était des jeunes maquisards. On les appelait les maquisards, les résistants. Parce qu'eux aussi étaient obligés de se cacher. Mais je peux vous dire qu'entre Eddy, qui avait peut-être 8 ans à l'époque, et moi qui en avais 15 ou 16, ce qu'on a pu pleurer... Je crois, je vous assure, qu'il était inutile d'arroser l'arbre, hein, parce qu'on y a mis tellement d'eau à auto-pleurs qu'il a dû pousser 3 fois plus grand. Tellement on a pleuré. On était là, je me revois, au pied de l'arbre, et on pleurait, et on pleurait. Et moi, je lui disais, il dit, pleure pas. Et lui me dit, mais si toi tu pleures, je pleure. Alors, vous voyez, il y a quand même dans quelque chose de dramatique, il y a toujours quelque chose d'humoristique. Voilà, parce que je regarde ce petit, il me dit, oui, mais si toi tu pleures, moi aussi je pleure. Alors je lui dis, bon, ben je pleure plus. Alors je ne vais pas pleurer, il me disait. Effectivement, au milieu de la nuit, un camion est arrivé, et c'était deux jeunes qui conduisaient, il y avait ce monsieur, qui nous a pris dans le camion. Alors là, je ne peux même pas vous dire, et je l'ai regretté, où il nous a amenés. Je sais que je me suis retrouvée dans un village, dans une ferme, où il y avait d'autres personnes que moi qui étaient cachées. Parce que ce village, est-ce qu'on vous a expliqué ce qu'était la ligne de démarcation?
Oui.
Hein? D'un côté, la France occupée, de l'autre, la France qu'on disait libre. Mais malheureusement, le maréchal Pétain collaborait avec les Allemands. Mais moi, je croyais qu'arrivant en France libre, j'allais être chez moi. À la France, j'étais française, il n'y avait pas de raison, j'allais chez moi. Et pour arriver donc en zone libre, écoutez, alors là, c'est humoristique, je vous assure. À un moment donné, il y a un jeune fermier, on était au moins 30 personnes hein, à passer la ligne de démarcation. Et il pleuvait à torrents. Et je ne sais pas si vous connaissez les campagnes d'avant-guerre, c'était pour arriver dans les fermes, c'était des sentiers pleins, alors, quand il pleuvait, pleins de boue. Et alors, ce jeune fermier nous dit, il faut vite passer maintenant, parce qu'il fait orage, il pleut, les sentinelles le long de la frontière, quoi, qui sépare les deux France, elles vont rester peut-être dans leur guérite, on a 20 minutes pour passer. Et on nous a donné des vélos. Alors là où je vais vous amuser, les vélos. Moi, je n'ai jamais fait de vélo. Vous savez, je suis de Nancy, c'est une grande petite ville, disons. Hein? Nous habitions en plein centre-ville. Alors, on te donne un vélo sur une route détrempée, pleine de boue. Même un vrai cycliste, il aurait eu du mal. J'essaie de monter. Bon, je tombe tous les... D'ailleurs, j'étais monstrueuse, j'étais pleine de boue, pleine de sang, parce que je me blessais. Je tombais sans arrêt. Et puis, ils étaient plusieurs jeunes fermiers à nous amener jusqu'à la ligne de démarcation. Et ce jeune fermier me dit, écoute, d'un air très sévère, hein, je vous assure, maintenant il y en a assez, tu vas nous prendre tous si tu nous retardes comme ça. Alors, ou tu montes sur ce vélo et tu roules, ou tu restes là. Je ne roulais pas, je n'y arrivais pas. Alors, vous savez ce que j'ai fait? J'ai couru. J'ai couru derrière eux. Mais comme eux aussi, ils ne roulaient pas très vite, puisqu'ils étaient pleins de boue et tout. Eh bien, écoutez, hein, je courais tellement vite que j'étais devant eux. Alors, j'aurais pu faire le marathon, hein. Je vous assure. Alors, eux en vélo et moi qui courais, en priant le ciel. Mon Dieu, qu'on me laisse pas là, qu'est-ce que je vais devenir, hein. Et j'ai couru, et bien je suis arrivée en même temps qu'eux pour passer la ligne de démarcation. Alors bon, et tant bien que mal, on a été pris en charge grâce à ce monsieur par d'autres résistants qui étaient en zone libre. Et j'avais une tante à Toulouse. C'est comme ça que j'ai abouti à Toulouse, chez ma tante. Mais vous savez, l'administration allemande, qui collaborait avec l'administration française, était bien renseignée. Et donc, mon évasion du camp avait été signalée. Et comme ils avaient trouvé une carte que ma tante m'avait envoyée quand j'étais au camp, ils avaient l'adresse de ma tante. Et un jour, on frappe à la porte chez ma tante. C'était la milice française. Vous savez, avec des grands manteaux noirs, les bérets sur la tête. Je vous assure, hein, même si vous mourrez comme Mathusalem, hein, à plus de 100 ans, vous ne pouvez pas oublier certaines images. Et alors, regardez, ma tante, il y avait ma cousine Hélène, ma cousine Estelle, ma cousine Ida, et mon cousin, elle avait 4 enfants, Henri. Et Ida était partie avec les tickets de ravitaillement, puisqu'on avait les tickets de ravitaillement, était partie, je ne sais où, faire une commission avec les tickets, ou prendre du pain, ou les œufs, ou un peu de beurre, je ne sais pas. Donc, elle n'était pas là. On ouvre la porte, on se trouve devant deux miliciens. Ma tante, toute tremblotante. Madame, vous avez une nièce, Annie. Alors, ma tante répond, oui, j'ai une nièce, Annie. Où est-elle? Oh, mais je crois qu'elle est dans un camp à Tours. Non, madame, et vous le savez, elle n'y est plus à Tours. Et moi, j'étais là, derrière la porte. Elle n'y est plus à Tours, vous savez où elle est? Non, monsieur, je vous affirme que je ne sais pas où elle est. Et alors, montrez-moi votre livret de famille. Ma tante va chercher, je ne sais pas, le livret ou quelque chose, enfin, où il y avait le nom des... Et alors, il prend le livret, il dit, où est Hélène? Ma cousine Hélène s'avance. Où est Ida? Il n'y avait pas d'Ida. Alors, ma tante, elle me montre, ben, Ida, voilà, pourquoi tu ne t'approches pas? Vous voyez? Imaginez si Ida était arrivée. Eh bien, tout le monde, ma tante, mon oncle, cousin, cousine, tout le monde, on était mort. Alors, bon, comme elle a nommé tous les quatre, bon, si jamais vous la voyez, vous devez immédiatement appeler la préfecture. Oui, monsieur, j'y manquerai pas, dit ma tante. Bon, le soir même, inutile de vous dire que je ne pouvais plus rester chez ma tante. Il y avait donc un archevêque à Toulouse, Monseigneur Saliège, et vous savez, il n'y a eu que 4 évêques en France qui ont combattu les Allemands, c'est-à-dire qui ont aidé tous ces gens qui étaient pourchassés, qui les ont aidés. Et Monseigneur Saliège, et je peux vous dire que la lettre pastorale qu'il a envoyée dans toutes les églises, il y a des prêtres qui ont refusé de la lire.
La lettre que nous avons lue ce matin.
Oui. Dans la lettre, il disait que tous, peu importe notre religion, nous étions tous des femmes, des hommes, des enfants. Et ça, ça ne plaisait pas à tout le monde, naturellement. Alors, je suis arrivée là, dans un bureau que Mademoiselle Thème, je vous montrerai la photo, c'est elle qui s'occupait des œuvres de l'archevêché. Et elle a téléphoné donc à Monseigneur Saliège, et moi j'étais là, toute pleurnicharde, écoutez, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas où aller, parce que ma tante, on ne pouvait plus me garder chez ma tante, parce qu'ils allaient revenir, c'est sûr. Et Monseigneur Saliège a dit, gardez-la dans votre bureau, j'envoie quelqu'un la chercher. Et je suis restée dans le bureau, et effectivement, vers 4 heures, j'ai vu arriver une religieuse qui était directrice de la pension Notre-Dame de Massip, qui était d'un côté, je vous montrerai les photos, d'un côté couvent, où il y avait une trentaine de religieuses. De l'autre côté, c'était l'école. C'est elle qui est venue me chercher. Et elle m'a dit, on est obligé de prendre le train pour aller à Cap-de-Nac. Parce que l'école se trouvait dans les environs de Cap-de-Nac. Mais si on nous demande les papiers, je dirais que vous êtes une élève du couvent et que je vous ai amené, que vous étiez malade, je vous ai amené chez le médecin. Bon, on a eu de la chance. Il n'y a pas eu de... Personne n'est venu nous demander les papiers. Hein. Pour une fois, le voyage s'est fait sans problème. Et on est arrivé donc à Cap-de-Nac. Et vous savez ce qui est marrant? Dans le couvent, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'auto. Vous savez comment on venait chercher les enfants? Il y avait une voiture à cheval, avec un cheval. Et une voiture accrochée, donc, au cheval. Et on venait nous chercher comme ça. Hein? Ça ne vous dit rien, vous imaginez, vous qui êtes toujours en voiture, hein? Alors, je vous assure que même moi, quand j'ai vu une carriole accrochée à un cheval venir chercher les enfants, parce qu'il n'y avait pas de voiture hein, au couvent. Donc, on est resté au couvent. Alors, là, il ne fallait pas qu'on sache que nous n'étions pas catholiques. Il fallait aller à la messe. Mais cette religieuse, c'était une femme très, très intelligente. Une femme incroyablement, réellement. D'ailleurs, elle a eu la Légion d'honneur, elle a eu la médaille du mérite, elle a eu tout ce qu'il y a comme réellement comme médaille. En riant, on lui disait toujours, si vous deviez accrocher vos médailles, vous marcheriez courbé en deux. Tellement elle a eu des médailles de reconnaissance pour le travail qu'elle avait accompli. Imaginez qu'elle a quand même caché 80 enfants, qu'elle a sauvé 80 enfants. Alors qu'il y a 40 enfants à Lisieux, c'est pas tellement loin, Lisieux, hein, à Lisieux, qui ont été dénoncés par le maire lui-même, des enfants de 3 ans à 14 ans, 40 enfants, qui ont été dénoncés par le maire, que les Allemands sont venus arrêter. Et les professeurs, deux ou trois professeurs, n'ont pas voulu se séparer des enfants et sont morts avec les enfants à Auschwitz. Et cette religieuse, elle savait qu'elle risquait gros en nous gardant, mais elle l'a fait quand même. Elle nous a gardés et les autres religieuses ne savaient pas. Alors, pour que personne ne sache, pour pas que on puisse dehors nous dénoncer. Elle a dit, on va aller à la messe. Il faut aller à la messe avec tout. C'était une école, donc il y avait des enfants du village avec nous. Mais moi, je n'étais jamais allée à la messe, par exemple. Je parle de moi comme de tous mes petits camarades qui étaient là. Hein. Alors, Madame Bergon, c'est la directrice, c'est sœur Denise, mais comme elle était professeure, on l'appelait Bergon. Elle m'a d'ailleurs donné des cours de philo, Madame Bergon. Elle nous dit, écoutez, ce que vous allez faire, quand vous verrez les gens se lever, vous vous lèverez. Quand ils s'agenouilleront, vous vous agenouillerez. Quand ils s'assoiront, vous vous asseoirez. Mais le temps de les voir, vous avez une ou deux secondes. Donc, quand ils se levaient, nous, quand on se levait, déjà, ils se rasseyaient ou ils s'agenouillaient. Ça a été à ce tel point que des gens ont fait la remarque à Madame Bergon. Et tenez-vous bien, savez-vous ce qu'elle a répondu? Elle a dit, ah oui, mais c'est pas étonnant, vous savez, ces gosses viennent de l'Est, viennent de Nancy. Et vous savez, du côté d'Nancy, il y avait beaucoup d'aciéries, c'est-à-dire des usines. Donc, il y avait beaucoup de familles ouvrières. Alors, elle disait, vous savez, ces gosses viennent de familles ouvrières qui ne sont pas tellement pratiquants, alors ils ne savent pas. Bon, mais ça pouvait marcher une fois ou deux, mais... Hein. Mais comme elle était très intelligente et qu'il y avait un clavecin au premier étage de l'église, on appelle ça comme...
Des orgues.
Hein?
Un orgue.
Oui. Elle a dit, vous allez monter là-haut et vous chanterez. Donc on a appris, je peux vous dire, tous les cantiques, je pouvais vous les chanter par cœur. Par cœur, à ce tel point, pour vous amuser un peu, un jour, on revenait... avec mes enfants, mon mari, mes enfants, d'être allé manger chez des amis, c'était pendant la période de Noël, et on faisait marcher la radio dans la voiture, et il y avait le Mimi Chrétien, et je me suis mise à chanter avec. Et mon fils me dit, eh ben, tu connais ça, toi? Mais avec un air. Et j'ai dit, oui, mon chéri, je connais ça.
L'émission que vous venez d'écouter a été réalisée dans le cadre d'un atelier radio mené par Alexandra Josse pour les associations Médias communs et les chemins buissonniers. Dans le cadre d'un projet de radio inter-école porté par la communauté de communes du pays de Savès. Elle est placée sous licence Creative Commons, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Toutes les musiques qui ont servi pour l'habillage sonore sont également placées sous licence libre.